et bienvenue sur Caribbean Lifestyle, un podcast qui vise à valoriser le mode de vie caribéen tout en prenant en compte les spécificités de cette région. Je suis votre hôte Anaïs et je suis originaire de l'archipel de la Guadeloupe.
Dans l'épisode du jour, j'accueille Florence Dupuis qui a un parcours que je qualifierais d'atypique. Bonjour Florence, comment vas-tu?
Bonjour Anaïs, ça va, merci et toi?
Je vais très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs?
Ok, je me présente Florence Dupuis, je suis la présidente de l'association Ca Express. C'est une association dont la mission s'ancre dans ce que j'appelle l'éducation. Elle intervient dans plusieurs secteurs éducatifs. Ça peut être l'éducation à la culture, l'éducation à l'économie, mais en tout cas, on s'axe actuellement à deux secteurs, c'est l'éducation à l'environnement et à la santé. Donc moi-même, voilà, je viens de ces deux secteurs-là. Voilà, j'ai un parcours professionnel et de formation qui s'ancre dans ces deux secteurs-là.
D'accord. Est-ce que tu peux présenter un des projets que vous avez réalisés à travers l'association?
Alors, le projet de l'association, c'est vraiment de la mise en place. C'est comme je disais tout à l'heure là, c'est vraiment de l'éducation à l'environnement et à la santé en ce moment. Et c'est ça. Et elle s'inscrit dans la mise en place de deux ateliers. Un atelier en direction de tout ce qui est mineur en Guadeloupe. On appelle ça les ateliers d'activités éducatives à l'environnement et à la santé pour les enfants, où vraiment on inscrit les enfants dans un parcours pédagogique toute l'année. Et de manière ludique, ils sont sensibilisés à des problématiques autour de l'environnement ou de la santé. Mais parallèlement à ça aussi, c'est un travail qu'on fait au niveau de tout public à travers d'autres ateliers qu'on a mis en place autour de professionnels qui s'appellent les ateliers d'activité collaboratif éco-solidaire. Et où l'idée, c'est de vraiment d'être dans une démarche de promotion, valorisation de l'environnement, préservation, en allant chercher des déchets, en allant chercher tout ce qui se gaspille sur le territoire et de le revaloriser, de le transformer. C'est vraiment un travail de réemploi, de réutilisation, que je dirais.
D'accord. OK. Quel type d'objet que l'association a pu réaliser en revalorisant les déchets, justement?
Alors, l'association travaille beaucoup autour, je vais dire, de deux axes. Un premier axe que je vais appeler tout ce qui est accessoires, artisanat d'art, c'est-à-dire accessoires de décoration de maison, tout ce qui est utilité. Mais voilà, on travaille aussi beaucoup, on fait un grand travail de développement autour de tout ce qui est maroquinerie bois, que ce soit avec les chutes de bois, proprement dit, les essences de bois de Guadeloupe, ou vraiment le bambou. Voilà, on travaille beaucoup. La maroquinerie, c'est la fabrication de sacs. Donc, on travaille beaucoup sur ce type d'activité depuis maintenant 3-4 ans.
Je confirme. J'ai effectivement un sac de Ca Express et je confirme que c'est un type de sac que je n'avais jamais vu autre part. De par la forme du sac, et les possibilités qu'on peut faire avec l'utilisation. Je me souviens qu'on peut avoir un modèle assez basique, qu'on peut un peu customiser avec ce qu'on veut, ou on peut avoir des modèles un peu plus spécifiques, si je ne me trompe pas.
Voilà, alors c'est vrai que nous, à l'association Ca Express, cette revalorisation se fait pas de manière non réfléchie, je dirais. C'est vraiment un processus. On a vraiment mis un processus de fabrication, de production en place pour s'inscrire dans du long terme, dans du développement durable, comme il se veut, face aux enjeux qui se jouent. Et c'est vrai que les sacs concrets, ils font l'objet, pas que les sacs, mais l'ensemble des choses qu'on fait autour des articles, des créations qu'on fabrique autour des déchets, eh bien, ils se font dans une démarche de développement durable. C'est-à-dire que c'est du long terme, c'est réfléchi, il y a vraiment, c'est posé. Ce sont des créations qui font l'objet d'un travail de recherche et développement et qui fait que nous, on produit quasi des créations, quoi. C'est même pas, voilà, c'est, des fois, ça frôle l'œuvre d'art. Et d'ailleurs, on est détenteur de la marque Esprit Parc des Parcs Nationaux de France, en ce sens. Et parallèlement à ça aussi, le fait que ce travail de création permet de financer le travail, comme j'ai dit préalablement, d'éducation à la santé et à l'environnement pour les enfants. À ce titre aussi, nous, on a été distingués au niveau de l'UNESCO dans le cadre des trophées des réserves de la biosphère, qui est une distinction qui est mise en place dans le cadre du programme MAP de l'UNESCO. Donc, vraiment, c'est un travail reconnu aujourd'hui, ce que l'association K-Express fait, ça s'ancre tant au niveau local, national et international.
C'est super, félicitations pour cette distinction.
Merci pour nous.
Tu as parlé au début de l'insertion des jeunes à travers l'association et à travers les activités. C'est un sujet d'actualité en Guadeloupe. On ne l'a pas précisé au début de l'épisode, mais l'association K-Express est une association basée en Guadeloupe, plus précisément dans le sud Basse-Terre. Donc, je reviens à mon propos sur l'insertion des jeunes et l'éducation des enfants. Est-ce que tu peux partager un exemple de jeune ou d'enfant qui a été vraiment touché par les actions, pardon, de l'association, c'est-à-dire ce que ça lui a apporté, quelle valeur ajoutée que ça lui a apporté, qu'est-ce que ça lui a permis dans son parcours de jeune ou d'enfant?
Alors, je vais parler d'une jeune, je vais parler d'une jeune qui a été récemment intégrée à une de nos activités, les ateliers d'activités éducatives sur l'art, c'est la peinture, c'était autour de la peinture. Elle s'appelle Emma Belair. C'était vraiment une vraie victoire pour nous cette année. Au fait, c'est une jeune, elle a 16 ans, mais c'est une jeune fille qui est née prématurée. Et qui est donc à peau effet secondaire. Elle a subi tous les effets neurodégénératifs de la prématuration, ce qui fait qu'elle a beaucoup de problèmes jusqu'à maintenant, psychomoteurs, voilà. Elle a des problèmes neurodégénératifs. Et quand elle est arrivée au sein de nos ateliers, pour vraiment vous montrer le côté parcours de l'atelier, le côté construit de l'atelier, mais alors qu'elle fait un simple cours de peinture, même s'il y a beaucoup d'axes qu'on met autour de la peinture, on met des groupes de parole, on accompagne les enfants, tout ce qui est sensibilisation à la lecture, à la culture. Emma, en 6 mois, est passée d'une enfant qui était inerte, quoi, inerte physiquement, quoi, à une enfant qui a aujourd'hui confiance en elle, qui est debout, qui est devenue autonome. Ses parents qualifient l'atelier de thérapeutique. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de thérapeutique. C'est vraiment, pour moi, ce n'est pas un outil thérapeutique, les ateliers des associations actives. C'est vraiment un outil éducatif. C'est-à-dire que ce sont des ateliers qui tiennent compte de l'individu, de ce que l'individu peut être, peut apporter et qui s'adaptent à ça pour l'emmener vers quelque chose, des enjeux de société, pour qu'il soit sensibilisé et pour qu'il s'exprime dedans. Et c'est ce que Emma a réussi à faire. Elle a réussi, c'est parce qu'on l'accepte qu'elle a réussi à prendre confiance en elle et qu'elle a réussi à proposer quelque chose, à être quelque chose, quoi. Et ça, c'est vraiment notre plus grand parcours. Ça a vraiment étonné tout le monde, même à commencer par ses parents, mais sa maman qui venait régulièrement, elle a vu l'évolution. Mais le père qui naît à la fin de la restitution de l'action, lorsqu'il a vu sa fille, il a dit, mais parce que l'enfant, dans la société dite, on va dire normale, elle va à l'école, dans une école spécialisée, ULIS, alors qu'elle a toutes les capacités pour intégrer on a fait la démonstration qu'elle avait toutes les capacités pour intégrer une école ordinaire, quoi. Et d'où aujourd'hui, elle est dans une école ordinaire. En fait, il faut construire ça avec l'enfant et c'est vraiment le gain des ateliers. On a une forte demande parce qu'on a cette patience, on prend ce temps avec les enfants.
Super, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce qu'elle a pu faire en peu de temps.
Peu de temps, ça s'est fait exactement en 6 mois, cette évolution.
Wow.
C'est vraiment, voilà, je ne sais pas si j'arrive à le décrire, mais il faut vraiment vous imaginer que vous prenez un enfant quasi handicapé, handicapé reconnu en plus dans une société, une enfant qui va dans une école spécialisée, elle a quand même 16 ans, c'est-à-dire dans 2 ans, c'est censé être une jeune femme. Elle va dans une école spécialisée, c'est-à-dire à 16 ans, on envisage même de la faire continuer à aller dans une école spécialisée, alors qu'il suffit de chercher cet élément déclencheur chez elle, parce qu'elle a les capacités, au fait, d'aller à l'école ordinaire, de s'intégrer, de faire toutes ses affaires, d'être autonome, quoi. Et nous, à l'association K-Express, on prend ce temps de construction avec l'enfant, mais à travers un volet éducatif, parce que nous, on est convaincus que c'est ni de la prévention qui a lieu d'être faite, c'est ni mon personnel, comme on appelle ça, mais c'est vraiment un processus d'éducation. C'est expliquer à l'enfant, tu dois trouver les voies et moyens par les outils qu'on va te donner pour t'épanouir, pour te construire dans la société. Et ça, c'est de l'éducation, ça. C'est vraiment lui apporter ces outils-là. Et c'est ce qu'on fait. On le fait à travers les centres d'intérêt des enfants. Et notamment pour Emma, on l'a fait à travers la peinture parce qu'elle aime beaucoup peindre. Elle aime beaucoup ça. Et on inscrit les enfants vraiment dans des parcours pour se faire pédagogique. C'est-à-dire qu'on va partir d'un point A pour arriver à un point B. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que lorsque l'enfant, pour que je matérialise encore plus mes dires, c'est vraiment l'enfant, il intègre des cours de peinture, mais à la fin, il devient vraiment un petit artiste en herbe où il présente vraiment un vernissage, ses tableaux, où il présente vraiment son savoir-faire, ce qu'il a appris, ce qu'il a acquéri, et ce qui fait que ça devient quelqu'un d'autre. Mais c'est lui qui a construit ça. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui construit ça. Et nous, c'est vraiment un travail d'éducation et on insiste dessus. Et c'est vraiment un travail d'éducation au sens large. Au sens large de l'environnement, au sens large de la santé. Parce qu'avant, tout était très enclavé. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait de la santé. Mais aujourd'hui, on a compris que l'impact, au vu des enjeux qu'on a face à nous aujourd'hui, on est obligé de travailler en transversalité. On ne peut pas travailler la santé en restant seulement dans la santé somatique. Il faut travailler la santé de manière globale, c'est-à-dire comme le prévoit l'OMS aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire le bien-être de l'individu dans son environnement. Ça veut dire quoi? Tu dois travailler l'individu, mais tu dois travailler l'environnement de cet individu. Et dans l'environnement, il y a tout. C'est un environnement économique, un environnement social, un environnement naturel, un environnement financier. C'est tout cet environnement qu'il faut travailler. Et il faut savoir amener ça chez un enfant, démocratiser ça. Eh bien, l'association K-Express, nous, c'est ce qu'on a développé depuis tantôt, quoi, maintenant.
OK. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, déjà qu'on est un peu dans une société où on a tendance à cloisonner et où de plus en plus on voit des jeunes qui ont du mal à s'insérer pour diverses raisons, notamment en Guadeloupe et de façon un peu plus large dans la Caraïbe, où l'insertion, par exemple, professionnelle, personnelle est complexe. Ce que propose K-Express, c'est en quelque sorte une solution pour permettre aux jeunes de travailler en transdisciplinarité s'épanouir, mais aussi d'acquérir, de consolider, de développer des compétences qui peuvent être dans plusieurs domaines, pas seulement des compétences professionnelles.
Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que cette pluridisciplinarité qu'on maintient chez l'enfant, c'est parce que un individu même, de manière légitime, il est pluridisciplinaire. C'est cette construction de la société qu'il y a eu depuis tantôt qui rend les individus disciplinaire, quoi, c'est-à-dire dans un secteur clé. Mais l'individu est pluridisciplinaire. Un individu, même s'il n'a pas, je vais dire qu'un individu va à l'école, même s'il fait que le bac, il fait que, par exemple, un cursus scientifique, mais ça ne veut pas dire que c'est un individu qui n'est pas capable d'être un bon critique littéraire. Ça ne veut pas dire que c'est parce que si sa passion, c'est la lecture. Ben, il peut comprendre très bien ça sans jamais avoir ce cursus-là. Donc, aujourd'hui, nous, on nourrit ça, on nourrit la pluridisciplinarité qui existe déjà au niveau de tout individu, de l'enfant, donc on nourrit ça. Et pour vraiment asseoir ça, on utilise le fait qu'on travaille avec l'enfant de manière personnalisée, on tient compte de l'individu lui-même.
OK. C'est pour moi, en fait, à mon avis, c'est une approche qu'il faudrait plus développer. C'est déjà très bien ce que fait l'association, mais c'est une approche qu'on devrait voir un peu partout pour permettre justement aux jeunes, parce que là, je dis beaucoup les jeunes, car on est sur cet axe-là, de pouvoir se développer, se sentir plus épanoui et casser un peu les carcans que la société nous impose. Pour moi, c'est ça, à mon avis.
Et puis, c'est surtout parce qu'aujourd'hui, il est inévitable qu'il est nécessaire de s'inscrire dans un nouveau paradigme, parce que celui dans lequel on est montre aujourd'hui ses limites. Et ce nouveau paradigme nécessite de revenir à cette chose simple qui est la multidisciplinarité des individus, la capacité des... Parce que c'est tout. Chaque fois qu'il y a eu... Chaque fois que les besoins de transition se sont avérés nécessaires, c'est dans la créativité de l'homme qui va aller puiser pour pouvoir, comme on dit, redonner sens, reconstruire, réinventer. Et ça passe indispensablement par de la pluridisciplinarité. Ça, c'est indispensable. Par la diversité, par la différence, par
Tout à fait.
l'acceptation de chacun, quoi.
Exactement. Là, je vais passer à des questions un peu plus spécifiques au podcast.
Oui.
Il faut savoir en fait que l'essence même du podcast est de valoriser le mode de vie caribéen. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la présentation de Cas Express, tout en mettant en avant des parcours inspirants afin que ceux qui écoutent le podcast puissent s'inspirer, puissent agir, puissent trouver, comment je dirais ça, une source d'inspiration. Donc, la question que je vais te poser maintenant est, qu'est-ce que le mode de vie caribéen pour toi? Comment tu le définis? Comment tu le reconnais?
Moi, le mode de vie caribéen pour moi, selon moi, c'est vraiment, moi, si je devais définir ça, c'est vraiment basé sur, je vais dire, une démarche culturelle. C'est-à-dire que il y a quoi dans cette démarche culturelle? Il y a déjà le mode de vie qui est de vivre sur une île. En général, la Caraïbe, c'est des îles.
Oui.
C'est ça. Et ça entraîne un processus culturel. Au niveau de la musique, l'ancrage culturel est fort, au niveau de la musique, au niveau de l'histoire. L'histoire qui a une grosse place parce que c'est vraiment toute. Il y a dedans toute l'histoire de la transdéportation, hein, de l'Afrique, des hommes mis en esclavage, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le mode de vie caribéen. C'est quelque chose d'inventif, de créatif, qui a été créé, mais sur une base profondément culturelle qui émane vraiment de cette histoire, comme je dis, de déportation, quoi, de l'homme, quoi. C'est vraiment pour moi, c'est ça, c'est cette créativité dont ont fait preuve les hommes qui vivent ici, parce que c'est ethnique, c'est multiculturel, on qualifie souvent le mode de vie caribéen. D'ailleurs, les grandes métropoles qualifient souvent ce type de vie de terrain d'expérimentation, parce que c'est cette capacité qu'aura l'homme face à cette histoire, justement, face à ces multiples cultures et en même temps à cette culture profonde qui est là, hein. C'est-à-dire que tu peux être chinois, mais quand tu arrives, par exemple, je veux dire en Guadeloupe ou en Haïti, ben, tu dois faire face au créole. Le créole, il est là, il est là, les enjeux sont là, le mode culturel, les impacts, je vais dire, que ce soit de l'Afrique, mais de l'Occident, il est là. Et c'est chacun de ces ethnies qui doit après, par la suite, chercher à se mettre ensemble, à se concorder et dans le respect mutuel de l'autre, mais en même temps à se dire, on a ce cercle commun et il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on l'accepte, je dirais même au point qu'aujourd'hui, ben, cette culture, elle devient un enjeu socio-économique, quoi. Un besoin chez l'identité des autres, de chacun de nous, de nos enfants, de cette construction, elle devient même un marqueur des limites de la société actuelle. Pour moi, c'est vraiment ça le mode de vie caribéen. C'est cet ancrage culturel qui vient de notre histoire, quoi, et qui nous oblige à nous questionner en permanence, qui nous oblige aussi à trouver les voies et moyens pour faire du vivre ensemble notre socle commun, de le chercher, ça. C'est vraiment ça pour moi le mode de vie caribéen, parce que quand tu cherches ailleurs, je ne dirais pas que ça n'existe pas, que c'est pas, c'est propre, je ne sais pas si ça n'existe pas ou que c'est propre à nous, mais c'est, il est clair, à mon sens, il est clair que vivre dans la Caraïbe, c'est quelque chose d'assez spécifique.
Ce n'est je pas, te rejoins.
Voilà, c'est quelque chose de très spécifique. Et pour bien le voir, moi, ça m'est arrivé de voyager dans plusieurs pays de la Caraïbe. On voit tout de suite les socles communs. On voit cette histoire, on voit ces cultures, on voit ces socles communs. Je dirais quelque chose de tout banal, comme, parce que moi, je reste sous cet ancrage culturel. Le gros cas, c'est partout dans la Caraïbe.
Oui.
Même, voilà, tu es en Jamaïque, il y a le wégué, qui est vraiment la musique qui a été mise en valeur par Bob Marley. Mais pour les gens qui s'y connaissent en musique, l'ancrage du wégué, c'est le gros cas. Et ça, ça vient de quoi? C'est de notre histoire, ça. C'est de notre histoire. Et même si on est autre chose, on pourrait prendre un autre élément de société qui est la religion. Même si on voit beaucoup cet ancrage de tout ce qui est société basée sur le christianisme, la chrétienté, ben, au fait, quand tu fouilles dans les sociétés de la Caraïbe, ben, tu trouves des modes de vie spirituels qui sont communs à ces territoires-là. Parce qu'il y a une culture, et ça, c'est propre à la Caraïbe, ça. C'est propre à la Caraïbe parce qu'il en découle de l'histoire vécue par tous ces pays-là. Il en découle de cette histoire-là, ça, qui a impacté, évidemment, le monde entier. Ça n'a pas impacté que la Caraïbe. Mais les Caraïbéens, de par la problématique où ça a créé une multi-ethnicité, je pense, à mon sens, ça a créé un mode de vie qui, naturellement, qui est diversifié et qui nous oblige tout le temps à être dans cette tension, on va dire dans ce fil harmonique un peu tension, quoi. Un mode de vie qui est un peu sous tension, je vais dire, mais qui nous oblige en même temps à faire ensemble, à essayer de nous comprendre et aussi qui nous donne cette possibilité, je pense, qui est seule au monde. D'ailleurs, aujourd'hui, on qualifie la Caraïbe de sixième continent, hein. Qui nous oblige à expérimenter des choses en permanence. On est les seuls à le faire mondialement. Tu vas voyager beaucoup d'endroits où tu vas voir des similitudes, mais dans la Caraïbe, les similitudes engagent de la créativité. Ça engage de la créativité. Je peux donner, voilà.
Il y a ce qui fait notre particularité, je dirais.
Voilà. Voilà, et il y a plein d'exemples. Je peux donner, par exemple, l'exemple de la cassave. Nous, on fait de la cassave d'une certaine façon en Guadeloupe, mais tu vas aller en Dominique.
C'est différent.
Cassave. Voilà, c'est encore différent, mais c'est de la cassave toujours.
Oui, à Saint-Lucie aussi, c'est complètement différent.
À Marie-Galante, des fois même, qui est tout près de la Guadeloupe, c'est encore différent. Manioc est un ancrage culturel pour nous. Parce que derrière, c'est l'agriculture, derrière, c'est les cultures vivrières, mais ça, c'est notre socle commun qu'on recrée. Et qu'on recrée pourquoi? Parce que chacun de nous vit sur une île dont, justement, c'est ce que j'expliquais, que la culture devient un enjeu socio-économique. Donc, on le recrée, on en fait de la spécificité de ce socle commun. Et ça nous enrichit parce que ça nous oblige à expérimenter. Et ça nous rend grands, ça nous rend différents, ça nous rend même aujourd'hui puissants au niveau de ce qu'on appelle l'économie des savoirs et des savoir-faire sur un territoire, que je vais dire planétaire, qui est le monde. Pour moi, c'est ça le mode de vie caraïbéen. Et les Caraïbéens qui, peut-être aujourd'hui, n'en sont pas conscients, mais ils sont incontestablement imprégnés sans se rendre compte. C'est ça le mode pour moi de vie caraïbéen. C'est cette diversité qui va t'amener à la création malgré toi.
Tout ce que tu as dit, c'est vraiment très intéressant et j'espère que cela pourra susciter la réflexion chez nos auditeurs. On arrive aussi à la fin de l'épisode. Je tiens à te remercier, Florence, pour ce partage riche qui a suscité pour moi-même déjà une réflexion sur comment je vois mon identité guadeloupéenne, mais aussi caribéenne. Je voudrais te demander, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'épisode ou au podcast en général?
Ben, moi, la seule chose que je vais rajouter, Anaïs, c'est déjà te remercier, mais aussi surtout dire aux auditeurs qu'à mon sens, que pour moi, au vu de tout cela, Les grands défis qui s'annoncent pour la Caraïbe, c'est la coopération. C'est cette capacité que chaque île, dans sa spécificité, pourra faire, qu'on revienne à ce socle commun qui pourra nous faire être ensemble, parce que l'un de nos défis sera vraiment véritablement de nous poser en tant que Caribéens, comme véritablement le sixième continent du monde.
Et de créer des liens solides entre nous.
Voilà.
Exactement.
Ben, la coopération, ce sera ça notre grand enjeu. C'est vraiment de nous... Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a l'enjeu qu'on puisse se parler, c'est-à-dire linguistique, qu'on puisse se parler pour vraiment venir opposer ça, parce qu'il faut savoir que cet enjeu va nous emmener vers quelque chose de nouveau, de puissant, de distingué, d'incontournable, mais planétairement. Superbe émission, je te remercie d'avoir pensé à l'association K-Express pour intervenir au sein d'un tel podcast. Pour moi, tout ce qui met en valeur l'espace géographique caribéen, pour moi aujourd'hui, est indispensable. Ça fait partie des socles de coopération, des éléments fondateurs pour avancer sur la coopération, les enjeux actuels, qu'elles soient environnementales, santé ou autres secteurs.
Je te remercie, Florence. Si nos auditeurs souhaitent avoir plus d'informations sur l'association K-Express, comment ils peuvent te contacter ou contacter les membres de l'association?
Alors, tout ce qui est médias, comme on dit, sites, si vous voulez avoir de la communication sur nous, ben, vous vous rapprochez des sites du Parc national de la Guadeloupe, on y est très bien représenté, ou de l'UNESCO. Ou sinon, vous pouvez aussi nous contacter au 06 90 291 502. Ou aussi par mail, où on est beaucoup plus réactif par message, c'est-à-dire kexpress.gpe@gmail.com. Voilà, comme ça se prononce, kexpress avec un seul S à la fin, .gpe@gmail.com. Je fais confiance à Anaïs pour mettre...
Oui. Ce sera podcast. Dans la description de l'épisode. Effectivement, toutes ces informations seront dans la description de l'épisode. Je te remercie encore, Florence, et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, et à bientôt dans un prochain épisode.
À bientôt, Anaïs.
À bientôt, Florence.
Si cet épisode vous a plu ou a attisé votre curiosité, vous pouvez le partager avec vos proches. Je vous invite aussi à le noter et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts, ou encore à donner votre avis sur le compte Instagram @caribbean.lifestyle.podcast. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.